L'Institut de sondage IFOP a récemment publié une étude sur la consommation de drogue par les moins de 25 ans. L'usage du cannabis se répand dans tous les aspects de la vie. Ainsi, fumer un pétard qui était habituellement réservé à des moments festifs se banalise dans d'autres moments de la vie quotidienne, par exemple en couple, dans les moments de solitude, mais aussi, tenez-vous bien, aux heures de travail ou avant un entretien d'embauche. Nous nous intéressons ce matin à ces jeunes addicts avec le directeur du Cénacolo à Lourdes. Bonjour Franco Geda.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Franco Geda, qui sont les jeunes qui frappent à votre porte ?
Ce sont des jeunes qui ils sont un peu perdus et souvent ils fument du cannabis et qui les rend vraiment déstructurés complètement. Et aussi il y a d'autres addictions en ce moment. Il y a des jeunes qui sont devenus dépendants aussi d'Internet, de rester en ligne, des écrans, jusqu'à avoir vraiment des problèmes de panique, de peur. Je dirais que tous les, et aussi il y a des personnes qui ont des problèmes d'alcool, aussi très jeunes, mais surtout sont des jeunes qui ont un manque d'amour. Le manque de la famille, souvent, ou une famille déstructurée, un père absent, qui les rend, après l'adolescence, à se perdre dans des produits et dans des choses du monde qui sont vraiment des pièges, je dirais. Et c'est de plus en plus, on banalise le cannabis, on pense que c'est normal. Et cette jeune ne s'en rend pas compte. Il pense vraiment de faire des choses comme tous les autres, mais petit à petit, il s'assit de plus en plus sur un canapé, il s'enfonce devant un écran, il vit une vie passive. Et ils sont remplis de peur. Je dirais que les jeunes qu'on accueille ont vraiment quelque chose en commun et qu'ici on essaye de combattre, c'est la peur de tout.
Alors justement, on va voir comment vous combattez cette peur. Vous parlez de jeunes déstructurés. Est-ce que c'est une évolution que vous avez vue? Ça fait 23 ans maintenant que vous êtes au Cénacolo. Est-ce que vous avez vu des jeunes qui sont de plus en plus déstructurés et pourquoi?
Oui, c'est sûr. Quand je suis entré, moi aussi au Cénacolo, parce que j'avais des problèmes, quand même, j'avais travaillé aussi, si je me droguais, je me défonçais. Et plein de jeunes sont été comme moi. On avait aussi un métier, mais on était fragile pour plusieurs choses. Mais on arrivait à revivre et à être bien structuré quand même, au moins sur certaines choses. Et ici, ça arrive des jeunes de plus en plus. Et je les vois aussi des jeunes qui viennent ici seulement pour faire une petite expérience de vie, ou sont les frères d'un jeune qui était chez nous, et qui sont vraiment complètement déstructurés. Et déstructuré, pour moi, ça veut dire tu n'arrives pas à rester concentré, en commençant une petite chose et la terminer. Et ça, je pense que ça manque un peu d'éducation, de modèles, d'exemples. C'est surtout, ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Quelqu'un, il est plein de dons aussi, mais aussi très intelligent. Souvent, qui se perd aussi dans la drogue des addictions, une intelligence très vivante, mais qui n'est pas canalisée. Et alors, on recherche jusqu'à tomber dans certains pièges. Et ce manque de déstructuration, moi, je la vois, par exemple, là, on a les 90% des jeunes qui viennent chez nous, qui n'ont même plus un repas en famille. Ils sont surpris d'ici se retrouver à table, tous ensemble, à la même heure. Et ça, c'est vraiment, je pense, on court un peu trop dans le monde. Et la famille, il paye vraiment, il crée des fruits, des jeunes qui ont plein de peur et sont déstructurés.
Alors les jeunes qui arrivent au Cénacolo, qu'est-ce qu'ils découvrent en fait? Qu'est-ce qu'ils vont vivre?
Ils découvrent la vie. Je pense qu'on pourrait dire que c'est une petite école de vie avec toutes nos pauvretés. Et vraiment, on est des pauvres types ici. Mais on propose une vie très simple. D'abord, retrouver une hygiène de vie. Se lever tôt, manger à l'heure, travailler un peu à l'extérieur, garder la maison propre, manger sain. Ici, souvent, on a des fermes. On retrouve aussi les contacts avec la nature, avec la création. On se surprend à planter des tomates, les voir pousser, les manger l'été.
Donc ça apprend la patience aussi.
Oui, on retrouve vraiment un goût à la vie. Dans la façon très simple, avec aussi un peu de discipline, et c'est assez exigeant, mais c'est ça, il faut aussi que chaque jour on se lève tôt, on prépare les choses, comme ils l'ont fait nos parents, nos grands-parents encore plus, pour vraiment s'habituer et s'éduquer aussi à des petits sacrifices, mais pas pour souffrir, vraiment pour s'éduquer, pour être capable d'apprécier après les choses.
Et comment se passent les relations les uns entre les autres? Parce que vous dites que ce sont des jeunes qui sont déstructurés, qui n'ont pas forcément eu de vie de famille, de repas de famille, comme vous dites. Donc ce sont peut-être des jeunes qui sont très livrés à eux-mêmes. Et alors comment ça se passe quand ils sont mis les uns à côté des autres au Cénacolo?
Et ça, c'est très beau parce que Sœur Elvira, qui est notre fondatrice, il a une intuition géniale de pas donner un médicament à quelqu'un qui est en difficulté ou pas mettre un éducateur à côté, mais mettre une autre personne, un pauvre comme toi, qui l'a déjà cheminé un petit peu, et nous on appelle ça un ange gardien. Mm-hmm. Que c'est un garçon comme toi, et que ça fait déjà 6 mois et non qu'il est chez nous, et qu'il t'accueille et reste à côté de toi et on marche ensemble. Hein. C'est important aussi sortir de cette solitude. Quelquefois, on est dans le monde, on pense à faire plein de choses, mais on est tout seul derrière un écran. Et ici, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment un peu décapant au début, parce que quand même, tu es toujours au milieu des autres. Aussi, dans les chambres, il y a des dortoirs, des salles de bain en commun, on mange tous ensemble. On travaille ensemble, on partage, on apprend aussi à communiquer, à exprimer nos réactions, mais dans des choses simples. Par exemple, on joue au foot, 2 fois par semaine, et à la fin du match, on s'assoit en cercle et on partage chacun. Il a dit qu'est-ce qu'il a vécu pendant son match, et il arrive à exprimer qu'est-ce qu'il est en train de vivre lui-même. Et ça, c'est très important, la communication entre les jeunes. Souvent, on ne se parle même plus, on s'envoie des messages. Et ici, on met tous les téléphones, les ordinateurs au bureau, on ne l'utilise pas. Et on vit une vie en direct, active. C'est moi que j'ai fait les choses, c'est moi que j'ai fait la musique, c'est moi que je chante, et pas toujours d'une façon passive.
Vous parlez de communication, de relation aux autres. Est-ce que la dimension du pardon, elle a une place au Cénacolo?
Oui, c'est très important. Souvent, quand on arrive ici, on vit de la culpabilité, mais on ne se sent pas jugé ici. Quand tu arrives, tu trouves des types, des personnes, des jeunes entre 18 et 50 ans, c'est très varié, mais tout le monde, il a fait quelque chose, il a eu un petit problème. Et c'est très important de dire nos misères. Hein. Hier, son père, Pape François, il était dans une de nos maisons à Rome et nous a dit vraiment, au Cénacolo surtout, il faut pas avoir peur de dire nos misères, nos problèmes, nos difficultés. Et ça, ça nous aide. Mmh. Ici, on fait vraiment ça. On entre en relation avec une amitié, avec une A majuscule. Je m'occupe de toi, je te rends un petit service. Mais aussi, je m'ouvre, je parle, je te donne l'exemple et je t'écoute. Et là, tu arrives à exprimer en vivant ensemble avec les autres.
Au Cénacolo, vous le disiez tout à l'heure, Sœur Elvira, qui est la fondatrice, avait dit « Je ne donne pas de médicaments » et je la cite, c'était des jeunes avec des yeux éteints et avec la mort dans le cœur qui me demandaient non pas des médicaments, mais la joie de vivre. Et donc vous avez aussi fait ce choix de ne pas donner de médicaments, de substitutifs à ces jeunes qui veulent se sortir de la drogue, mais vous proposez la prière. Alors ça peut paraître étonnant pour des jeunes, notamment pour ceux qui ne croient pas en Dieu, comment ça se passe?
Mais je vous dis, Sœur Elvira, il n'a rien fait d'autre. Et moi, j'essaye avec d'autres personnes qui sont un peu plus de temps qui sont là, de dire et raconter ce qu'elle vivait. Elle aussi, c'était une femme avec des problèmes. Elle vivait avec nous. Quelquefois, elle avait un problème avec quelqu'un, d'autres soucis. Il disait, quand je ne suis pas bien, je vais dans la chapelle et je m'étouffe vers le Seigneur. Et cette prière quotidienne, ça m'aide à vivre la vie. Et on a essayé, vous aussi. Et comme ça qu'on a essayé, et ça marche. Pour tous, ça peut marcher. Se mettre devant le Seigneur, chez nous, on a la chance d'avoir la présence réelle, et toujours une chapelle, c'est la première chose qu'on bâtit dans une maison. Et on propose ça à un garçon. Pas pour l'imposer, pas pour faire du prosélytisme, au contraire, mais dire, moi, ça m'est arrivé ça, et ça fonctionne, chacun l'unique, les différents, mais essaye. Et en essayant, quelquefois, la grâce du Seigneur, il t'ouvre le cœur, te touche le cœur, et donc, te fait relever la tête, et ça va.
Et donc, c'est...
tu vois l'exemple des plus vieux, plus anciens, des communautés qui sont là, que tu les vois, qu'ils vont prier aussi dans des moments de temps libre, ou la nuit, ou le soir, et tu vois que ces personnes sont un peu plus patientes, un peu plus joyeuses, un peu plus fortes dans la vie, un peu plus disponibles au travail, et plus disponibles à l'écoute. Mmh. Et ça, ça arrive du Seigneur. Et c'est ça qu'on propose, vraiment de faire une expérience, de rencontre aussi dans la prière. Mais dans la simplicité, après, et c'est pas que c'est mathématique, tu arrêtes un médicament, tu entres au sénacolo, on te mis devant Jésus.
Oui, parce qu'il y a quand même des échecs, j'imagine.
Il y a aussi un docteur qui nous aide pour vraiment voir bien les choses et peut-être baisser certains traitements avant de les arrêter. Et quelqu'un, on ne peut pas l'accueillir parce qu'il a des problèmes plus psy et il a besoin de médicaments chaque jour.
Mmh. Oui, vous et voulez dire qu'il y a quand même un discernement avant d'entrer en fait, au sénacolo et il faut que le jeune soit complètement libre et déjà sevré en fait, de ses addictions. En
oui,
partie.
Après, nous, on demande de faire un sevrage auparavant. Mais l'important, c'est de venir déjà dans une de nos maisons pour nous voir vivre une demi-journée ou deux journées d'essai sans dormir encore chez nous pour trouver la motivation. Moi, qu'est-ce que ça m'a touché énormément la première fois que je suis entré dans une maison du Sénacolo, bien défoncée encore, c'était le regard de ces garçons. C'était un regard propre, l'énergie qu'ils avaient, ces garçons. Moi, j'étais devenu un légume et eux, ils travaillaient, ils faisaient les choses, ils me souriaient, ils ne me connaissaient même pas, ils me faisaient petit geste d'amitié. Et ça, c'est, ça touche. Et tout ça, c'était gratuit. Et pour moi, tout ce commande, ça m'a vraiment bouleversé le cœur de voir que quelqu'un, il est disponible pour m'aider, pour m'accompagner et pour m'aider à changer de vie.
Et donc c'est ça qui vous a donné envie aussi maintenant de prendre la place des anciens, des aînés et de vous mettre au service justement des plus jeunes qui arrivent au Sénacolo. Un dernier mot, Franco Geda, pour préciser la place des familles. Vous disiez que voilà, les liens avec les familles pouvaient être extrêmement distendus, les jeunes pouvaient avoir peu de contact avec leur famille, mais pourtant, est-ce que vous essayez, quand les jeunes sont au Sénacolo, de renouer ces liens?
Oui, je vous dis, c'est très important la place de la famille. On propose un chemin parallèle aux familles. En France, il y a 8 groupes de parents, un peu dans chaque région, pour vraiment se rencontrer, avoir un lieu de parole pour des parents qui ont leur enfant qui se drogue, qui est un peu perdu, et qui n'est pas encore entré au Sénacolo, il peut déjà se retrouver avec cette famille. C'est très important qu'il prenne contact, et les premiers contacts qu'on donne en famille, c'est de parler avec d'autres familles.
Oui, c'est une première
étape.
Pas
seulement avec nous. Mmh. Mais c'est vraiment un lieu de conversion aussi pour la famille. Nous, on ne demande pas de l'argent aux familles, mais on demande vraiment de se remettre en chemin pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre aussi leur fils ou leur fille ici chez nous et pour vraiment se réconcilier les jours que sera le moment d'arriver à se réconcilier et mettre des nouvelles bases pour aller de l'avant.
Merci.
Chaque enfant, il est unique, il est sensible et quelquefois qu'il tombe dans les addictions, il est un peu plus sensible de
merci.
La famille, c'est un petit chemin. Ça les aide à retrouver la confiance dans la vie et dans la famille.
Merci beaucoup, Franco Geda, de nous avoir éclairé ce matin sur l'œuvre de reconstruction opérée dans la communauté du Sénacolo à Lourdes. Vous réagissiez à cette enquête IFOP récemment publiée sur l'usage du cannabis et de la consommation de drogue en général. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Au revoir et bonne journée.